dut quitter Guerrero toutes affaires cessantes, car il portait encore son tablier de travail. Celui-ci, pourvu de nombreuses poches, était aussi long et moche qu'une jupe de rombière. Une poche était dédiée aux ciseaux, il y en avait de plusieurs tailles, une autre aux feuilles de papier de verre, du plus gros au plus fin. Une troisième logeait le tube de colle et le chiffon dont il se servait pour nettoyer l'embout du tube. Les autres étaient destinées à divers usages connus de lui seul. Les poches étaient ce qu'il préférait, disait-il, sur son tablier de travail en cuir. Quand il était enfant, Juan Diego se figurait qu'il dissimulait bien des secrets. « Je ne sais pas ce qu'on attend, toi peut-être, » dit-il à El Jefe. « Parce que la Vierge géante, ça m'étonnerait qu'elle fasse quelque chose, » ajouta-t-il en la regardant. Au moment où frère Pepe et Rivera étaient arrivés, les fidèles commençaient à s'agglutiner dans l'église, bien avant le début de la messe. Juan Diego allait se souvenir, plus tard, que Lupe avait regardé le patron de la décharge avec beaucoup plus d'attention que d'habitude. Quant au Jefe, il avait l'air plus méfiant à son égard que d'ordinaire. Sa main gauche était enfoncée profondément dans une poche secrète de son tablier de travail. Il passa les doigts de sa main droite sur la couche de cendres accumulée sur la clôture de l'autel. « Les cendres ont une drôle d'odeur, pas très forte cependant, » dit le père Alfonso. « Il y a quelque chose de collant dans les cendres, une substance bizarre, » ajouta le père Octavio. Rivera sentit ses doigts, puis il les essuya sur son tablier. « T'en as des choses dans tes poches, Jefe, » remarqua Lupe. Juan Diego ne traduisit pas, il était vexé que Rivera n'ait pas réagi à sa vanne sur la géante, à savoir qu'il ne fallait pas compter sur elle pour faire quoi que ce soit. « Vous devriez moucher les cierges, Pepe, » dit le patron de la décharge en pointant le doigt vers sa Vierge Marie adorée. Puis il s'adressa aux deux vieux prêtres. « Elle est hautement inflammable. »« Inflammable ? » s'écria le père Alfonso. Rivera refit l'inventaire du contenu de la boîte à café, telle que les enfants l'avaient appris du docteur Vargas, une étude scientifique basée sur des analyses chimiques. « Peinture, térébenthine ou un autre diluant ?»« De l'essence, assurément, » énuméra-t-il aux deux prêtres, « et probablement des produits de traitement ou de teinture du bois. » « On ne risque pas de tacher la Sainte Mère, j'espère, » s'inquiéta le père Octavio. « Laissez-moi la nettoyer. Si je peux avoir un petit moment seul avec elle, par exemple demain, avant le premier office du matin, ou le mieux serait après les vêpres, ce soir. Il faut éviter de mélanger de l'eau avec toutes ces substances, » ajouta Rivera. On aurait cru entendre un alchimiste reconnu et incontesté plutôt qu'un banal patron de décharge. Dressé sur la pointe des pieds, frère Pépé mouchait les cierges avec un long éteignoir doré. Les cendres avaient déjà éteint ce qui se trouvait à proximité immédiate de la Vierge Marie. « Tu as mal à la main, Jefe. À l'endroit où tu t'es coupé ?» demanda Lupe à Rivera. L'homme était indéchiffrable, même par une télépathe. Ce que Lupe avait lu dans ses pensées devait aller bien au-delà de la coupure qui pissait le sang, se dit plus tard Juan Diego. Elle avait dû percer le secret du petit projet que Pepe avait interrompu et que Rivera était en train de finaliser. Que faisait donc le patron de la décharge quand il s'était tailladé le pouce et l'index de la main gauche? Mais Lupe ne révéla pas ce qu'elle savait, ni si elle le savait, et d'ailleurs Rivera, à l'instar des poches de son tablier de travail, dissimulait bien des secrets. « Lupe veut savoir si tu as mal à la main, Jefe, là où tu t'es coupé, » traduisit Juan Diego. « Il me faut juste deux points de suture, » dit Rivera, la main toujours plongée dans la poche de son tablier. Frère Pepe avait pensé que Rivera ne devait pas conduire. Il l'avait amené dans sa vieille Volkswagen depuis la cabane de Guerrero, et il avait insisté pour déposer sans tarder le patron de la décharge chez le docteur Vargas. Mais les points de suture pouvaient attendre, Rivera tenait à voir d'abord les résultats de la dispersion. « Les résultats !» répéta le père Alfonso, après que Pepe lui eut rapporté les propos du médecin. Les résultats, j'assimilerais ça à une forme de vandalisme, déclara le père Octavio, jetant un regard sévère à Juan Diego et à Lupe. Moi aussi, il faut que je voie Vargas, allons-y tout de suite, dit Lupe à son frère. Les enfants ne regardaient même pas la Vierge monstre. Ils n'attendaient pas la moindre réaction de sa part, Mais Rivera leva les yeux vers le visage sans nez de la Vierge Marie, comme si, nonobstant sa mine assombrie, il attendait d'elle un signe, ou ce qui pouvait s'apparenter à des instructions. « Allez, viens, jefe. T'as mal, ça saigne encore. » Lupe lui prit sa main droite indemne. Le patron de la décharge n'était pas habitué à une telle marque d'affection de la part de la petite fille, toujours portée à le remettre à sa place. Il la laissa le mener dans l'allée centrale de l'église. « On fera en sorte de vous laisser seul ce soir avant la fermeture, » annonça le père Alfonso au patron de la décharge. « Tu fermeras derrière lui, je présume, » dit le père Octavio à Pépé, qui venait de remettre le long éteignoir doré à sa place consacrée et se hâtait d'emboîter le pas à Rivera et aux enfants. « Si, si, » lança-t-il aux deux prêtres. Edward Moncho était resté sur place, la boîte à café dans les mains. Le moment n'était pas venu de se confesser, d'avouer ce qu'il ne pouvait plus garder au père Alfonso et au père Octavio. Un office allait commencer, et la boîte avait perdu son couvercle, qui avait disparu. Il aurait très bien pu partir en fumée, comme le nez de la Vierge Marie, pensait-il. Mais en l'occurrence, le couvercle de la très profane boîte à café, que Lupe avait été la dernière à toucher, s'était volatilisé sans émettre la moindre flamme bleue. Les enfants et le patron de la décharge avaient quitté l'église avec frère Pépé, laissant Edward Moncho et les deux vieux prêtres face à la Vierge sans nez et aux incertitudes de leur avenir. Pépé s'y retrouvait-il mieux que quiconque? Il savait qu'un processus de reconversion n'est jamais une mince affaire. Chapitre 27. Nez pour nez. Le vol de nuit de Manille à la Ouag était plein d'enfants qui pleuraient. Il ne durait pas plus d'une heure et quart, mais le vacarme ambiant le faisait paraître plus long. « C'est le week-end ?» demanda Juan Diego à Dorothy, qui lui répondit que non, on était jeudi. « Ils ont école demain, » s'insurgea-t-il, déconcerté. « Ces enfants ne vont donc pas en classe ?» Il savait d'avance que Dorothy allait hausser les épaules. Ce geste nonchalant, dérisoire, suffisait à le déconnecter du présent. Même les pleurs des enfants ne parvenaient pas à l'y ancrer. Pourquoi se laissait-il si facilement et si souvent gagner par le passé? Les bêtas bloquants en étaient-ils seuls responsables? Ou bien son séjour aux Philippines était-il de nature immatérielle ou éphémère? Dorothy parlait de sa tendance à être plus volubile quand des enfants babillaient autour d'elle. Je préfère m'écouter moi-même plutôt que ces mômes, tu comprends? Mais Juan Diego peinait à la suivre, car son monologue décousu était couvert par la conversation qui avait eu lieu 40 ans auparavant, cette discussion avec le docteur Vargas à Cruz Roja, le jour où celui-ci avait recousu le pouce et l'index gauche de Rivera. Tu n'aimes pas les enfants? S'était-il borné à lui demander. Après quoi, il ne lui avait plus adressé la parole de tout le vol, concentré sur les propos qu'échangeaient Vargas, Rivera et Lupe, pendant que le médecin effectuait les sutures ce matin-là, à l'hôpital de la Croix-Rouge. Ça ne me gêne pas que les gens aient des enfants, je veux dire, les autres. S'ils veulent en avoir, ça les regarde, déclara Dorothy. Et sans respecter la chronologie, elle se mit à évoquer l'histoire du lieu où il se rendait, sans doute pour que Juan Diego en connaisse les grandes lignes. Mais il n'en capta que très peu de choses, tout à la conversation à la Croix-Rouge, qu'il aurait dû écouter plus attentivement à l'époque. « Seigneur Jefe, vous vous êtes battu à l'épée ?» demandait Vargas au patron de la décharge. « Non, avec un burin. J'ai d'abord essayé celui en biseau. Il a un bord de coupe qui fait un angle oblique, mais ça ne marchait pas. »« Alors tu en as pris un autre ?» lança Lupe au Jefe. Juan Diego traduisit. « Oui, c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'était l'objet sur lequel je travaillais. Il ne tient pas à plat. Il est difficile à caler parce qu'il n'a pas vraiment d'assise. On a du mal à le stabiliser d'une main pendant qu'on coupe ou qu'on retire des copeaux de l'autre, » expliquait Lupe. Juan Diego traduisit également cette précision. « Tout à fait. L'objet est difficile à stabiliser, » convint Rivera. « Mais c'est quoi cet objet refait ?» demanda Juan Diego. « Disons que ça ressemble à une poignée de porte, à un loquet, à un...